écoutez ta radio. Pop.
Moi, mon nom c'est Smokey. La rumeur gronde, tous les gars sont sortis. On sort de l'ombre, faites chauffer les amplis. Pour donner un peu d'air, c'est clair. Flash pour n'importe quelle tâche. La colère monte et les mecs se lâchent. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Faut pas que je force que la vie soit facile. Je veux faire de l'or sans bouger mon nombril.
Il va y avoir du sport hein, ce lundi 15 juin. Et oui, pas encore l'été, messieurs. Au boulot, autour de la table, monsieur Yves.
Salut à tous.
Bienvenue, on a également Vincent.
Bonsoir à tous.
Philippe, le retour.
Eh oui, le retour. Bonsoir à tous, bonsoir à
tous. The comeback.
Eh oui, après les 24 heures du Mans, c'était normal.
Et on a également Mika.
Salut à tous.
Et de l'autre bout du combiné, nous avons Ludo. Ludo, est-ce que tu nous entends ?
Je vous entends, bonsoir tout le monde.
Bienvenue, toutes nos condoléances bien évidemment après cette 156e défaite en finale pour Clermont samedi dernier. On va en parler justement dans le programme de cette émission des débuts, c'est ça Yves ?
Exactement, on reviendra de suite ben, sur cette finale top 14 qu'on avait présentée dans l'émission exceptionnelle que nous avions fait, samedi avant le match de 19h à 20h. Et voilà, donc on débriefera cette partie qui a été assez morose. N'ayons pas peur des mots. Et après la petite pause, on enchaînera avec une petite partie football, avec un week-end maudit pour les équipes de France de foot, hein, avec des défaites et pour la sélection masculine, un match amical face à l'Albanie. Grosse surprise. Et aussi une grosse surprise avec la défaite de la sélection féminine 2-0 face à la Colombie. Et là, c'est un peu plus grave puisque c'est en Coupe du Monde et donc il y aura un match bientôt au couteau face au Mexique. Et on finira par un petit débat autour des Jeux européens. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, en Azerbaïdjan, il y a des Jeux européens. Donc on va, exactement. À Bakou, pour être exact. Donc, on verra d'où ça vient, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, qu'est-ce qui s'y passe, quel type de sport. Et on fera un petit débat sur l'intérêt encore d'une nouvelle compétition alors qu'il y en a à foison des compétitions. Et à 20h, Nico, Radio Vélo.
Radio Vélo en mode route du Sud. Et oui, à 15 jours du départ du Tour de France, du moins 15 jours, ça sera à la fin de la semaine. J-3 pour la route du Sud, mettre certains coureurs déjà sur Internet. On aura Julien Loubet, le sudiste, on aura également Alexandre Géniez et puis Pierre Gobin, le président organisateur de la route du Sud.
Très beau programme, Nico. Ben on va sans plus attendre, on va démarrer avec cette défaite de Clermont face au Stade Français en finale du Top 14.
Bonsoir, chers amis. La vainqueur est dire.
C'est Benabar qui chante à la fin.
Allez, allez, mon Ferrat. Mais ça n'a pas suffi, Ludo. Ça n'a pas suffi. Les chants des supporters pour ramener Clermont à cette deuxième victoire en top 14. Malheureusement, le compteur reste bloqué à 1 après cette défaite 12-6 face au Stade Français.
Ah oui, c'est même désespérant. On aurait peut-être même dû changer notre petit générique rugby aujourd'hui. Pour l'ASM, on aurait pu mettre un petit comme d'habitude, c'est la même chanson ou encore et encore. Hein, ça aurait pu changer, ça aurait été des défis pour les Clermontois. Ouais,
ah non, we are the champions. Ah non, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé.
Là, non. Peut-être l'année prochaine, mais ça, du côté de Clermont, on le dit chaque année. Mais bon, non, ici, ouais, tristesse et résignation dans les rangs des supporters de Clermont-Ferrand. Et puis, côté joueurs et staff aussi, hein, on comprend pas trop ce qui se passe dans une finale où Clermont était tout proche, mais une finale où Clermont a perdu et une finale de très, très médiocre. Hein, voilà. On n'a pas vu de beaux jeux. Hein.
Et comme on le disait dans la voiture, Ludo, Brock James, tu vois, il a manqué parce qu'au début, Parra qui loupe deux pénalités. à la fin, eh ben, ça peut, c'est ce qui manque. Hein.
Ouais, je sais pas, parce qu'il rate aussi.
Il rate la dernière, exactement.
Il rate l'égalisation à 10 minutes de la fin, qui aurait peut-être pu faire basculer mentalement le match, surtout que clairement à ce moment-là, prenait un petit peu le dessus physiquement sur les Parisiens, sauf qu'il la rate, et puis voilà, le mental a encore défailli du côté de Clermont. Alors je sais pas, avec des si, on pourrait refaire le match, mais ouais. Non, moi je pense que la solution, c'était Lopez d'entrée, puis même s'il a pas été bon, hein, faut quand même l'avouer, mais Lopez d'entrée et James à la fin, ça avait réussi en demi, mais voilà.
Mais le problème, c'est que là, ils ont été... Ouais, mais là où je rejoins évidemment avec des 6, c'est facile parce que évidemment Mark James a raté cette pénalité à 9-6 qui aurait permis au Clermontois de revenir à égalité, mais Parent rate 2 d'entrée, et donc le fait de prendre l'avantage d'entrée et d'être devant, ben c'est, psychologiquement justement, ça aide beaucoup, et là ben clairement on s'est retrouvé derrière tout le long du match, et quand on est obligé du coup de faire le jeu, quoi, parce qu'on l'a vu du coup notamment en fin de partie, ben quand ça a joué un petit peu au pied, des longs dégagements au pied, ben à chaque fois c'était clairement qu'ils devaient de relancer, puisque c'était eux qui devaient aller chercher le score. Et du coup, ça change un petit peu la donne.
Et puis, ouais, j'avais noté comme toi, hein, clairement raté les pénalités à des moments clés du match. Hein, donc,
bon,
la dernière minute, enfin, à 10 minutes de la fin, là, qui aurait permis l'égalisation. Et puis, c'est vrai que la première pénalité du match, elle est pour Parra. Elle est dans ses cordes, et un buteur de cette trempe-là, voilà. Il ne doit pas la rater. Quoi, hein. Je veux dire, ça fait 3-0 d'entrée. Surtout sur un match serré comme ça, les 3 points à la fin, ils sont très importants. Et c'est encore une fois, on va dire, Mornestein, là, qui est impressionnant depuis un mois. Ben, grâce à son expérience de haut niveau, grâce à son calme, il a bien joué. Au niveau de son jeu au pied d'occupation, il a été parfait. Il a été un peu moins parfait au niveau des tirs au but, mais oui. Il a fait plus que Parra et James. Hein. J'ai le statistique, 67% de taux de réussite au but pour Stein et 40% simplement pour Parra et James. Les deux chiffres sont vraiment pas terribles du tout, hein. Mais oui. Bon, c'est quand même Orne James qui en a mis plus que le duo Parra et James.
Mais après, c'est vrai qu'à ce niveau de compétition, c'est un chiffre ridicule. 40, tu peux pas gagner une finale en passant 40% des pénalités. C'est impossible.
Surtout quand c'était jouable, parce que voilà, rater des pénalités, ça peut arriver. Faire 40% quand tu tentes tout à 70 mètres, pourquoi pas, quoi. Mais bon, là, j'exagère un petit peu. Non, mais là, c'est vrai que, enfin, à ce niveau, sur des pénalités jouables, il faut pas se rater.
Et encore, il les a maintenus dans le match, parce que même Stein en deuxième mi-temps, en fait, les deux qui ratent, c'est en deuxième mi-temps, quand il fait 4 sur 6, hein, 67%. Les deux qui ratent, c'est en deuxième mi-temps, et s'il les avait mis, justement, il aurait pu mettre à l'abri le Stade français. Mais lui aussi, je pense qu'il a eu un petit peu coup de pression, et il en a raté deux, qui aurait pu faire basculer le match si Brock James avait marqué la sienne à égalité, qui revenait à 9-9, quoi.
Ah oui, d'ailleurs quand Mornestein rate les deux pénalités, j'ai dit ça va être le tournant du match, ouais. D'habitude il les rate pas, et là il en rate deux, je me suis dit clairement on va revenir dans le match, parce que 40% c'est ridicule, mais bon, 67% normalement on gagne pas une finale avec ce chiffre là, pourtant les Parisiens ont réussi, quoi. Enfin, quand on veut gagner une finale, il faut être à 85-90% de taux de réussite. En tous les cas, félicitations aux Parisiens. Ils ont gagné aussi le match au niveau défensif, hein, comme on l'avait dit dans notre émission d'avant-finale, hein. D'ailleurs, tous nos auditeurs peuvent réécouter notre podcast, hein. Ça va être une émission absolument superbe. Pour gagner une finale, pour gagner une finale, faut des réussites au tir au but, faut une bonne défense, faut être discipliné. Et ben voilà, c'est les 3 points où les Clermontois ont un petit peu failli, hein. Ils ont été indisciplinés, donc taux de réussite au but pas terrible. Et puis peut-être au niveau défensif, ça a été un petit peu mieux. Voilà, par exemple les turnovers, il y en a eu 20 pour Paris et 9 pour SM. Hein.
Les tirs au but et les turnovers, c'est les deux seuls stats où Paris est devant, en fait. On voit qu'en percussion et en ruck, ben c'est Paris qui a mangé clairement Clermont-Ferrand. Donc du coup, même si offensivement, on va dire, au niveau des mètres parcourus et des défenseurs battus, Clermont est largement devant le Stade français. C'est au niveau du possession et d'occupation, Clermont est largement devant. Mais ils n'ont pas su transformer parce qu'ils ont perdu. Il y a eu beaucoup de turnovers, et en plus, au pied, ça a été défaillant.
Des turnovers dans des rucks décisifs quand ils arrivaient aux 20 mètres de la ligne. Et c'est là que j'ai l'impression que les Clermontois, ils manquent de réalisme. Ils ont toujours du mal. Alors, est-ce que c'est mental, comme certains le disent, parce qu'ils savent que de toute façon, ils vont perdre? Est-ce que c'est un problème physique, technique, je sais pas, mais perdre des ballons à ces moments-là, à des moments improbables, hein, parce qu'ils perdent des ballons dans des rucks où jamais ils doivent les perdre, Déjà ça fait mal au moral de les perdre là, parce qu'il a fallu faire des efforts pour en arriver là, et puis derrière ça donne des possibilités pour se dégager à l'adversaire, et ça, à la fin du match ça compte aussi.
Après, 29 c'est énorme, hein. 29 en turnover, oui. c'est énorme.
Après, comme on le disait dans notre émission spéciale, le Stade français quand même est monté vraiment en puissance, et on sentait vraiment samedi soir que ils jouaient vraiment en confiance. Est-ce que tu as ressenti ça, Ludo? Parce qu'ils ont fait, comme le disait, nous l'a rappelé, justement, samedi, Nico, ils ont fait un très bon match contre le Racing. Bon, Toulon, ils ont bien joué aussi, mais je trouve vraiment que ce moment, ils étaient d'une confiance extrême. Et ouais, ils n'auraient jamais pu être inquiétés, en fait. Ils auraient pu faire 4 ou 5 matchs encore, je pense qu'ils auraient, ils auraient gagné. Qui aurait pu arrêter Stade français sur ces barrages? On peut vraiment se poser la question.
Mais moi, je pense qu'un gars comme Stein, vraiment, son expérience du haut niveau a servi ses partenaires. Il les a calmés et tout, dans certains moments clés du match. On l'a jamais vu paniquer, alors qu'on voyait quand même, par exemple, Parra Lopez, on voyait dans leurs yeux que ça tournait pas rond, quoi. Je sais pas, ils paniquaient. C'était pas les Parra James qu'on a l'habitude de voir. Alors, je sais pas, encore une fois, peut-être trop de pression. Je sais pas ce qui se passe dans les têtes des Clermontois à ce moment-là. Mais bon, voilà. Encore une nouvelle défaite. Et puis, c'est vrai que, au niveau des touches, là, puisqu'on est dans les stats, et je vais rejoindre ce qu'a dit Michael, au niveau des touches, il y a eu 3 ballons contrés de chaque côté. Sauf que la différence, c'est que l'ASM a perdu ses 3 ballons sur ses propres lancers à des moments forts et sur ses temps forts. Donc là aussi, ça fait un peu la différence, quoi.
Attends, au niveau des mêlées, ben, clairement, à chaque fois, ben, ils n'ont pas perdu un ballon dans leur mêlée avec leur engagement, et alors que Stade français a perdu un. Donc c'est pour ça, au niveau des stats, comme ça, si on les lit simplement, c'est vraiment le côté défensif qui est.
Sur les mêlées, quand même, bon, ils n'en ont pas perdu, mais ils étaient quand même assez sous pression, oui. Et c'est quand même beaucoup plus facile de jouer derrière quand on a une mêlée qui avance que quand on a une mêlée qui recule, quoi. Donc c'est quand même à relativiser cette stat-là.
Et Ludo, moi je voulais aussi souligner un point, voir ce que tu en penses un petit peu, parce qu'on sait que les finales, ben, comme on l'a dit, ça se joue aussi beaucoup à l'expérience, avec des gars qui ont l'habitude, s'il y a des anciens qui ont l'habitude, des gars, on va dire des présumés titulaires, ben, c'est mieux quand même d'en avoir, même si peut-être ils sont moins bons dernièrement. Est-ce que tu crois pas que l'absence de certains cadres mis sur la touche, voire en tribune par Azema, est-ce que du coup maintenant Azema est un petit peu critiqué à cause de ça, notamment Bonner, etc.
Ouais, ben, à part Bonner, ouais. Peut-être lui, mais
ouais, les Bonner autres, notamment. Non,
Bonner, oui, à la rigueur, ouais, son expérience aurait pu apporter. Mais par exemple, moi, Kayser, qui est sur le banc des remplaçants quand il démarre, moi, c'est tout à fait logique, quoi. Je veux dire, il n'y est plus du tout depuis un mois, quoi. Ça soit sur le terrain, ce que je suis prêt. Enfin, je vois les matchs souvent de Clermont, donc voilà, je peux en parler. Et d'ailleurs, sorti d'Ouloudia aussi, blessé en première mi-temps, je ne sais pas, au bout de 20 minutes. Après, pareil, hein, Ouloudia qui est supérieur à Benjamin Kayser, quoi, et sa sortie a été préjudiciable aussi pour l'ASM. Et puis j'en reviens, on l'avait dit au début, enfin dans notre émission d'avant-match, et ben Fofana, Naketa,
voilà,
mais là c'était sur blessure, c'est des absences préjudiciables, parce que si l'ASM est en tête au niveau des mètres parcourus, défenseurs battus, les actions étaient trop mal conçues pour être efficaces, et avec un Fofana, Naketa, Siou, Davis, ils voient des fois la petite brèche, et sur une seule action, ils auraient peut-être pu aller au bout, mais voilà, ils n'étaient pas là. Ou comme un cul de mort dans les rocs, ça fait du bien aussi. Alors, quelques absents. Alors, mis à part Bonner, voilà, bon, le reste, c'était quand même des blessés. Et puis, je sais pas, hein, Nalaga Butin aux ailes, pas terrible du tout. On comprend pourquoi, clairement, on les laisse partir du côté de Lyon et de Bordeaux, sans regret. Hein.
Est-ce que, toi qui as passé la soirée dans les bars, clairement toi, comment a été la réaction des supporters? Comment ils ont ressenti cette défaite? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'équipe? Parce que justement, Azema, voilà, certains lui en veulent.
C'est la résignation.
La résignation. Comment ils ont ressenti? Est-ce que pour toi, ça y est, c'est vraiment la fin ici qu'il va falloir repartir autre chose, ou bon, allez, une fois de plus on a perdu, mais on va continuer
à perdre.
Et ben voilà, ils étaient tristes, résignés, hein, comme je l'ai dit en début d'émission, là, un peu de colère, mais pas trop, parce que beaucoup s'attendaient finalement à cette nouvelle défaite.
C'est terrible,
mais d'ailleurs, même moi, au début, quand on va revenir à l'émission d'avant-match, je vous ai dit, si je prends mon habit de supporter, je veux que Clermont gagne, mais la vérité, en habit journaliste, c'est le Stade français qui va gagner, quoi. Enfin, voilà, même moi, j'y croyais pas trop, voilà, c'est un peu, c'est un peu l'ambiance qu'il y avait.
Et même dans le stade, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment senti, c'est peut-être une de mes premières finales où vraiment peu d'ambiance, enfin voilà, j'ai pas trouvé vraiment c'était pas chaleureux comme chaque année. Bon, après t'avais pas les Toulonnais non plus, t'avais pas les Toulousains, mais je trouvais vraiment timoré. Enfin, je sais pas comment vous l'avez ressenti, les gars, mais
moi je surtout ressenti que rigole pas Yves, mais que Clermont est en phase de devenir un club non plus de premier plan, mais un club qui sera très régulier, hein, entre la quatrième et la huitième place du championnat. Mais bon, ça y est, je crois qu'ils ont décidé de ne plus être les leaders, quoi, hein, non?
Ils font deuxième à chaque compétition depuis 10 ans. Ah, bon,
je crois que c'est fini, là. Là, je crois que c'est, je suis désolé, Ludo, mais je crois qu'il va falloir attendre longtemps maintenant pour la prochaine finale. Je le sens comme ça, moi.
Il est dur, hein.
Je sais pas. Azema, moi, je trouve qu'il est, c'est l'homme de la situation, hein, du côté de Clermont. Et puis,
pour ne plus gagner ou?
Non, mais pour une fois, il dit des choses qui sortent un petit peu de ce que peuvent dire les dirigeants habituels. Hein. Il met vraiment les points sur les i, et puis le recrutement l'année prochaine est pas si mal que ça. En tous les cas, ça apportera un bon surplus des joueurs qui partent cette année. Par exemple, un Speeding qui va remplacer un Butin. Là, il y a une plus-value vraiment bonne. Et un Océa Guir, vous le connaissez du côté de Toulouse, signe aussi à Clermont, ça a été officiel aujourd'hui, il va remplacer un Alaga par exemple, il y a Streetle, un ailier des Saracens, qui vient aussi du côté de Clermont, il y a certaines plus-values qui vont faire du bien, ou Van der Merle, un Sud-Africain titulaire avec l'équipe d'Afrique du Sud qui remplace un Julien Pierre, il y aura bien de la plus-value, et il y a un spécialiste de la mêlée aussi qui a signé du côté de Clermont, DJ Bess, il est entraîné du côté de Montpellier.
Ce qu'il faut, je pense, du côté de Clermont, c'est des joueurs de caractère, des joueurs qui peuvent sublimer les autres et faire sortir de cette ambiance de bon, on va jouer et puis on verra bien si pour une fois on va réussir à gagner. Voilà, il faut quelqu'un. À Toulon, ils ont des joueurs comme ça qui se battent, qui je dis pas que les Clermontois n'en veulent pas, mais il y a pas un vrai leader qui tire les autres vers le haut.
C'est l'habitude.
Ouais, c'est une habitude. Il faut casser le cycle, il faut arriver à
enchaîner,
faire comprendre aux autres que voilà, ouais, il faut gagner, quoi.
Par contre, on peut tirer quand même peut-être enfin là pour un coup de chapeau quand même à Quesada, quoi.
Ah oui, mais ça, on en avait parlé. Quesada, c'est quand même extraordinaire qu'il fait.
Extraordinaire. Qui aurait cru un début de saison, qui aurait mis un billet de 50 euros sur le Stade français?
Pas besoin d'aller jusqu'à 50. Hein.
Non, mais ce Stade français aura en tout cas montré une fois encore que ce top 14, voilà, qui est censé être le meilleur championnat du monde, est en tout cas très illisible. Et
exactement,
que les favoris, qui est en tête à la fin de la saison, n'a pas gagné le championnat. C'est ça la conclusion.
Ça, c'est l'éternel débat. Ça. Est-ce que les play-offs, ben, du coup, c'est l'injustice des sports où il y a des play-offs, tel le basket, le rugby. Il y a beaucoup de sports qui sont comme ça.
Hein. En deux minutes, on va pas avoir autant d'en parler de ça.
Exactement. Ludo.
Pour rebondir sur ce que disait Michael, là, sur le rôle de leader, là, dans l'équipe, ça s'est très bien vu, là. Il y a eu une action, je sais plus, en première mi-temps, je crois, où l'arbitre siffle une faute, et on voit tout de suite la différence entre le capitaine Parissé et capitaine Chouli. Il y en a un qui a vraiment été parlé à l'arbitre, en plus, il est italien, donc il a su y faire, et Chouli qui était beaucoup plus effacé, alors quand l'arbitre, je sais pas, ça influe un petit peu, quoi. Enfin, voilà, ça motive déjà les troupes, ses joueurs.
Oui, il faut de la révolte.
Voilà. Et Paris C, c'est très bien le faire du côté du Stade français. Hein. Et puis si on peut peut-être arrêter de parler des Clermontois et féliciter les joueurs du Stade français, Burban, par exemple, c'est pour moi l'homme des phases finales, tout club confondu. Hein. Antoine Burban, vraiment extraordinaire, défense irréprochable, et il gratte un nombre de ballons au sol vraiment incalculable, où il est pas en équipe de France, malheureusement. Et il y a Slimani aussi, ça a été le meilleur Parisien du match, par exemple, hein. Il a fait une performance vraiment de haut niveau, il a pris le dessus sur Domingo au niveau des mêlées. Lui, il est en équipe de France et on va espérer qu'il va garder cette forme pour la Coupe du Monde.
Ludo, on va devoir te remercier, ça va être l'heure de la pub, le mot de la fin en 10 secondes.
Ouais, ben un petit coucou aussi de l'équipe de France à 7 pour les JO de Rio. Ils peuvent se qualifier. Ils ont gagné les deux premiers tournois du côté de Moscou et de Lyon. Et s'ils font en demi-finale au prochain tournoi, c'est mi-juillet avec cet en Angleterre, ils sont qualifiés pour les JO. Donc voilà, un coup de chapeau à cette équipe de France à 7, puisque le rugby rentre aux JO l'année prochaine.
Enfin,
oui.
À 7, mais c'est déjà pas mal.
Tu vas pouvoir te régaler, Ludo.
Et ben on va suivre tout ça. Pas mal d'actualités également du côté de Toulouse avec Guy Noves qui a reçu la médaille de la ville, qui a été honoré partout tout Toulouse. Et puis du côté toulousain, la rumeur aujourd'hui encore, Emilien Tamac peut-être entraîneur de Bordeaux. En tout cas, apparemment ça chauffe de ce côté-là. Merci Ludo et à bientôt dans l'heure du sport.
Eh ben merci et à la semaine prochaine. Bonne fin d'émission à vous.
Bonne fin d'émission Ludo. On revient dans 2 minutes chrono pour la suite de cette émission juste après une petite respiration.
C'est pas radio.
Pop.
Rock.
Sport.
Chauffer les samplis pour donner un peu d'air. C'est clair, c'est clair. La route est longue à ce qu'on dit pour plaire.
De retour dans Il va y avoir du sport ensemble jusqu'à 21h sur Céta Radio, votre soirée de sport, toujours avec Yves, avec Mika, avec Vincent, avec Philippe et avec Nico désormais à l'autre bout du fil. Nico, est-ce que tu nous entends ?
Bonsoir messieurs, salut à tous.
C'est Nico.
Bienvenue. Merci. Et après le rugby, c'est le football, c'est ça qui est à l'honneur Yves ?
Exactement, on va parler équipe de France masculine et féminine et un petit mot aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sur la Copa América qui a débuté ce week-end. Et ouais, ce week-end, il y avait...
Et le foot au masculin, le foot au féminin, une fille au masculin, un garçon au féminin, on mélange tout.
Mais plutôt le déshonneur pour le foot français. Ce
exactement, pour une fois, il y avait les deux équipes, alors ça aussi, ça a fait polémique, les deux équipes de France jouaient samedi pratiquement à la même heure, il y avait 1 heure de décalage, les hommes
et
étaient à 18h.
Surtout à 1 heure pas forcément pratique.
Et voilà, les hommes à 18h en Albanie, à 19h c'était les femmes, et ben, le point commun, c'est la défaite, défaite 0 pour les hommes et 2-0 pour les féminines. Alors on va démarrer par les hommes. Alors nous, beaucoup autour de la table, on n'a pas pu voir le match parce que c'était juste pendant l'émission spéciale qu'on faisait de présentation du match du top 14.
Alors, moi, je suis pas venu exprès.
Il y avait Ruby. Ouais.
Alors
avait
moi, je l'avais enregistré. Et puis quand j'ai commencé à voir les commentaires, je vous l'avoue, moi, je l'ai pas revu. Nico.
Non, mais on l'a pas regardé. Personne ne l'a regardé.
Ah si, moi, je l'ai décortiqué toute la nuit. Arrêtez.
Moi, je l'ai vu un petit peu le lendemain sur une chaîne cryptique. Mais après, après, j'ai arrêté.
Bah, du coup, on va passer au tennis. Allez, le tennis, maintenant.
Allez, Nico, qu'est-ce que t'en penses de tout ça?
Je pense que j'ai programmé un match Albanie-France à 18h le samedi. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire du peu d'intérêt du monde médiatique français et du sport français autour de cette rencontre. Je vous entends, on va tomber sur les joueurs français, on va leur en mettre plein la tête. Qu'est-ce qu'il y a de plus logique que d'être démotivé pour un tel match?
Voilà.
Est à la mi-juin. On est à la mi-juin. On nous cale un match amical en Albanie.
Je suis pas d'accord.
Allez, rendez-vous compte.
Je suis pas d'accord, Nico.
Les Pogba qui se déplacent là-bas.
Ceux-là, oui.
Non, rien à foutre.
Ceux-là, oui. Il y en a d'autres, par contre.
Justement, je rebondis de suite, Nico, sur tes propos. Je te rejoins parfaitement et moi, je vais plus loin. J'ai pas envie de critiquer les joueurs de l'équipe de France. Non pas parce que ce sont des pauvres malheureux qui mériteraient d'être en vacances, mais surtout, j'ai envie de critiquer, oui, ce calendrier parce que on s'est mis nous-mêmes dans cette situation problématique en programmant des matchs n'importe quand. Face à la Belgique, face à l'Albanie, il y en avait pas besoin. Qu'on ait gagné 10-0, qu'on ait perdu 10-0, qu'est-ce que ça allait nous apporter? Absolument rien.
Je suis d'accord
avec toi.
Si ce n'est
bien sûr, des contrats. On doit avoir un contrat d'un nombre de matchs par an.
Mais non, mais c'est l'Albanie, c'est dans le groupe.
Voilà.
On est intégré au groupe. Donc,
on n'avait pas le choix cette fois.
La Belgique, oui, on avait le choix, mais pas l'Albanie.
Nicolas, je suis d'accord avec toi.
Mais on pouvait l'acheter le match. On pouvait s'arranger.
Ça reste quand même des professionnels. C'est pas quand même des amateurs qui jouent à
boulot.
Mais
c'est du foot, c'est super difficile comme sport, Vessa. Arrête, t'imagines pas. C'est pas comme s'ils faisaient du vélo, tu sais, ce sport super facile au mode d'école.
Non, là où je rejoins Nico, effectivement, quand tu parles de Pogba, je suis d'accord avec toi. Mais on peut pas dire que dans cette équipe de France, ils soient tous comme Pogba, c'est-à-dire leur place assurée dans les 23. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en sachant qu'il n'y aura que des matchs amicaux jusqu'à la liste des 23, moi, je sais pas, quand tu es pas sûr d'être dans les 23, t'as l'occasion de te montrer face à l'Albanie, face à la Belgique, et dans la vie de groupe, tu montres tout ce que tu peux, quoi.
Ok. On a un peu le problème. Trémoulinas fait une rencontre exceptionnelle face à l'Albanie. Qui s'en rend compte?
Deschamps. Sa famille.
Deschamps a 90-95% de sa liste de prêtres.
Oui, non, mais...
je pense que c'est pas un problème de liste. Il verra ensuite sur les 6 derniers mois sur la forme des joueurs. Là, on a des postes donc latéral gauche, on a des postes un petit peu en balance. Mais sinon, il va pas bouleverser sa liste parce que un joueur a pas été bon en Albanie ou un joueur très fort. Enfin voilà.
Non, mais
face à l'Albanie est tout aussi inquiétant que la branlée qu'on a failli prendre parce que le 4-3 est très très gentil pour nous face à la Belgique où on prend une leçon. Mais là, encore une fois, manque de motivation. Énorme manque de motivation.
Mais c'est pas normal.
Et Benzema, tout compris. Il était blessé.
Mais oui, ouais, mais
pour une fois. Il a pas voulu aller prendre l'avion pour aller à Tirana.
Ça fait longtemps qu'il est blessé avec la fin de saison avec le Real. Et, non, mais le problème, c'est quoi? Un match en sélection nationale, surtout, alors, à l'époque, on avait des cadors, des mecs installés qui, enfin, voilà, je veux bien. Mais là, je trouve que, et par rapport aux derniers résultats, et par rapport aux dernières performances, on n'est pas en mesure, justement, de se dire pas motivé, de s'en foutre un petit peu, quoi. Le truc, il est là. Si on venait de grosses performances et tout ça, et d'ailleurs, si on venait de grosses performances et qu'on était bon, par inanition, presque on gagnerait le match.
C'est
justement qu'il y a une mauvaise dynamique, justement, qu'il faut tout faire pour l'inverser, quoi.
Et puis attention, est-ce qu'on se voit pas 10 fois trop beau après
ah bah oui, non, ça c'est sûr.
Ok, est-ce qu'on se voit
mondial
pas
magnifique, ça aussi. Bon.
Est-ce qu'on s'est pas calé dans un pot de favoris pour l'Euro 2016? Est-ce qu'on s'est pas un peu pris le chou à un an de l'Euro 2016? Non, c'est clairement, on le voit dans cette équipe-là. Il y a pas non plus un fond d'effectif exceptionnel.
Ouais, il y a pas d'âme, on n'a pas vu d'âme.
Il faut que les 11 sur le terrain soient vraiment à la hauteur.
Favori de l'Euro 2016, pas forcément, mais en tout cas parmi les équipes intéressantes, possible beau parcours. C'est ce qui s'était dit en effet après la Coupe du Monde. Et justement, on savait que la chose la plus dure entre la Coupe du Monde et l'Euro, ben ça serait ces 2 ans à combler. Mais bon, je pense que si on a vraiment des professionnels et des bons joueurs, ils n'ont pas forcément besoin de se focaliser sur ces matchs-là.
Hein. Après, effectivement, ce qui est aussi bon, c'est très bien qu'on fasse des matchs amicaux. Mais il faut peut-être donner un peu d'enthousiasme, c'est-à-dire que l'Albanie, c'est pas le Brésil non plus.
Mais on n'avait pas le choix,
Mais c'est quoi
justement la Belgique, c'est mieux.
Non, mais et la Belgique, on est minable. C'est quoi ce calendrier?
Oui, mais le calendrier, c'est parler. C'est parler contre un mur, Vincent. C'est comme le top 14.
Essayez d'expliquer le principe et pourquoi on a joué contre.
Mais voilà, c'est-à-dire que
j'ai compris, moi, j'ai écouté, j'ai écouté quand il a parlé.
On est dans un groupe maintenant, même si nos résultats comptaient pas, on est dans un groupe. Donc au niveau du calendrier, t'as pas le choix des dates et t'as pas le choix des adversaires, sauf sur certaines petites dates où il y a des trous et là où tu choisis. C'est ce qui nous est arrivé contre la Belgique. Mais après, le reste, tu choisis pas. Donc, quand c'est le Portugal, ils sont dans le groupe, c'était bien, ça fait un bon match. Mais après, on le sait, les qualifs pour l'Euro, ce que ça donne. Mais t'as 6 matchs sur 10, voire 8, qui sont contre des petites équipes.
Et je crois qu'un 13 juin, ben, les joueurs, ils préfèrent aller à la plage qu'aller jouer en Albanie.
Quand t'es sûr de pas avoir ta place, moi, le truc, c'est ça. Moi, quand t'es pas sûr d'avoir ta place, Nico, moi, c'est ça qui me dérange, quoi. Nico.
Oui, non, mais je rejoins l'autre Nico. Nico, ouais. quand il dit que on s'y attendait, que les 2 ans vont être longs. On se l'est dit, hein. Rappelez-vous. Ouais, on s'est dit que les 2 années entre 2014 et 2016 allaient être très très longues, que le plus dur, c'est de pas se mettre le feu, d'ici l'Euro 2016. On se le met un petit peu, hein, c'est clair.
On fait que perdre.
On passe complètement à côté, on fait que perdre. Et surtout, on prend limite une petite branlée face à la Belgique, très clairement. Mais voilà, on se fout un peu le feu tout seul avec ces résultats. Maintenant, il faut passer ce cap-là et préparer sereinement d'ici un an l'Euro 2016. Il faut un peu plus de sérénité et c'est pas ce match face à l'Albanie ou la Belgique qui va nous permettre de tout remettre en cause. Il faut rester un petit peu plus calme par rapport à ce genre de résultats.
Je suis d'accord avec toi, mais Nico, est-ce qu'on s'est pas vu trop beau? Je te rappelle quand même qu'on est on est qualifié en Coupe du Monde par le barrage face à l'Ukraine, on perd là-bas 2-0.
Ah oui.
Il y a un engouement, donc on passe 3-0. Sur la lancée, on tombe sur un groupe en Coupe du Monde ultra facile. Avec le match le plus dur contre la Suisse, où t'as le meilleur défenseur qui se blesse au bout de 10 minutes, et on joue qu'en contre. Voilà, on fait un seul match contre le Nigeria ou une équipe à peu près plausible en 8e de finale. Voilà, et tu pars en quart de finale. Donc, si la France était tombée dans la poule de l'Espagne, là où il y avait le Chili, les Pays-Bas, ils passaient pas.
Oui, non, mais c'est tout à fait d'accord. Mais
donc, c'est un peu trompe l'œil.
Ni trop haut et ni trop mauvais maintenant.
Exactement,
voilà.
Ça par contre.
Ni trop mauvais maintenant où on a des joueurs démotivés. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. On n'a pas besoin non plus d'en faire des tonnes et de penser qu'il y a le feu à la maison à un an de l'Euro.
Il n'y a pas le feu à la maison, mais je pense qu'on s'est vu trop bon et du coup, il y a des expectatives qui sont trop importantes.
Pour, voilà. Pour moi, en tout cas, la presse s'occupe hein, en ce moment, clairement, avec la une de l'équipe aujourd'hui. Pour moi, tous ces débats n'ont pas lieu d'être. Il n'y a rien d'étonnant, mis à part que, oui, je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point en difficulté cette semaine. Mais de là à faire des débats et tout, je crois qu'il y a, beaucoup d'équipes nationales plus inquiétantes, notamment, je parle en France, hein, je pense qu'on ferait mieux de continuer à parler de l'équipe de France de rugby en vue de la Coupe du Monde, quoi. Enfin, bon.
Non, mais après, ce qui est inquiétant, moi, c'est surtout sur le niveau, sur les places des joueurs titulaires en équipe de France dans leur club. Quand on voit que Varane, à Madrid, il a du mal à faire son trou, il n'est pas titulaire. Cabaye, il n'est pas titulaire. Valbuena, il joue en Russie. Enfin, Evra, il va avoir 36 ans. Voilà, c'est plutôt ça qui est inquiétant, quoi. Moi, je trouve.
Oui. Et bon. Il n'y a pas d'énorme relève derrière.
Et c'est ça.
Il y a ça aussi parce que bon, je pense que Varane aura les épaules d'ici un an, que l'ossature sera bel et bien présente et qu'elle sera très, très intéressante à voir. Et là, si l'ossature est en forme, oui, on peut prétendre un beau statut. Mais c'est derrière, quoi. Derrière, si jamais on a des blessés, si on a un ou deux blessés au poste important, là, on va galérer, mais bon. On verra, hein. Là encore une fois, on est à un an. Et c'est clair, par contre.
On verra, mais il n'y a que des matchs amicaux, je le répète. Donc c'est tout
le pareil. Prochain contre le Portugal le 4 septembre.
Ouais. La presse a peut-être raison de regarder plus précisément le jeu produit par l'équipe de France. Et bon, il y a quand même Deschamps qui est bon sur. C'est pas une vague bleue, mais voilà, état de grâce permanent autour de Deschamps au niveau de la presse. On commence à se dire que bon, le jeu. Il stagne un petit peu depuis quelques temps.
On aura le temps justement d'en reparler. Et donc, comme tu vois, le match amical contre le Portugal, on n'a pas le choix. C'est le Portugal et la date, elle est définie.
Je pense que les joueurs sont vraiment. Enfin, c'est un adversaire intéressant.
Mais ouais, mais bon,
donc j'espère
qu'on le hasard.
Quand,
même,
quand je vais au boulot, c'est pas toujours intéressant, mais pourtant je fais le maximum. Dédicace à mon patron qui m'écoute.
Celles qui par contre devaient être motivées qu'il était, mais malheureusement en contre elles ont fait, elles ont pris deux buts, c'est l'équipe de France féminine, Nico. Alors la grosse surprise, hein, puisque c'est la première défaite de Bergerot hors États-Unis, puisque il y avait que contre elles qu'elles avaient perdu. Voilà, surprenant, inquiétant, ou voilà, là contre le Mexique elles vont cartonner et du coup elles vont se qualifier pour la phase finale.
Je pense qu'il y a quand même un gros coup à jeu face au Mexique et de logiquement elle devrait passer, mais c'est vrai que ça a été très très surprenant cette défaite face à la Colombie et c'est toujours un petit peu les mêmes recettes avec cette équipe de France féminine, c'est que voilà, il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de grosses occasions, il y a beaucoup de choses et c'est ça reste fébrile et ça manque de réalisme clairement du côté de cette équipe de France, donc oui, petite inquiétude, mais ça devrait faire face au Mexique.
Exactement. Donc Colombie qui est 28e au classement FIFA, mais 28e, c'est pas évidemment le haut du panier est beaucoup plus éloigné du milieu du panier, on va dire en équipe nationale féminine. Donc on peut pas comparer par rapport au masculin. Donc la Colombie, c'est vraiment pas des foudres de guerre. Ça a été très solide derrière, très solide de guerre derrière. Voilà, elles ont eu la chance d'ouvrir le score et malheureusement un manque de réalisme du côté de l'attaque française a fait que voilà, elles ont pas pu renverser la situation. Et comme on l'a dit, il n'y a rien de fait puisque le troisième match, c'est face au Mexique. C'est mercredi. Donc ça arrive, c'est mercredi à 22h, hein, Nico.
Oui, mercredi à 22h. Et sachant que bon, Colombie-Angleterre se rencontre, donc voilà. On pense à une victoire de l'Angleterre qui n'est pas fantastique non plus, mais qui devrait normalement l'emporter sur la Colombie. Donc oui, la France peut même encore finir première, hein, si on regarde.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous dire, Nico, si elle se qualifie, contre qui elle pourrait tomber ?
C'est pas encore, parce qu'on ne sait pas.
Alors, écoute, il y a six groupes, hein, ça va du groupe A au groupe F. Il faudrait que je te trouve le tableau très précisément. Je l'ai pas devant les yeux.
Et puis
attention, parce qu'une seconde place les mettrait face à une grande favorite. Hein. Donc il y aurait un gros dilemme. Je crois que ce serait directement en huitième de finale.
Donc voilà, le truc c'est ça, c'est qu'il faut gagner absolument une victoire façon les qualifie, puisque les deux premières, que Colombie et Angleterre se rencontrent, donc une victoire les qualifie assurément dans une des deux premières places. Mais bon, après voilà.
parmi les favoris bien sûr les États-Unis, le Brésil également a très bien débuté sa compétition puisqu'ils sont sur deux victoires d'affilée. États-Unis, Brésil, la Suède est pas mal, mais la Suède est dans le groupe des États-Unis et pour l'instant n'est pas qualifiée pour la phase finale. Donc il y a l'Allemagne également,
oui, comme d'habitude,
c'est un gros morceau comme d'habitude.
Oui.
Exactement. Bon, on en reparlera de façon, ouais, en espérant que la France sera encore qualifiée la semaine prochaine, lundi prochain. On va suivre cette équipe.
Oui.
Il y a un beau buzz, hein. Il y a une belle chose autour de cette équipe. Ça, on en parle beaucoup. Je trouve que quand même ça est retransmis sur plusieurs chaînes entre guillemets. Donc
il faut pas que ça fasse un flop maintenant. Hein.
Voilà, c'est ça surtout.
Voilà, oui. Très bien. Voilà, tout à fait. Ouais.
Il faut un bon résultat.
On en parle plus que le sujet suivant d'ailleurs. Hein, je vois.
Et un mot de la Copa América aussi.
Ah ouais, exactement.
Avec un petit Brésil hier soir, heureusement qu'il y avait Neymar, parce qu'autrement on aurait eu la grosse surprise péruvienne.
Exactement. Donc on va finir la partie football par cette Copa América qui a débuté jeudi ou vendredi, je crois.
Jeudi soir.
Exactement, jeudi soir au Chili, avec le Chili qui a ouvert le bal et qui s'est imposé. Je dirais que c'est l'équipe un petit peu qu'on attend, qui a tenu son rang, qui s'est imposé 2-0 face à l'Équateur, Nico.
Oui, peut-être là. Bon, l'Uruguay aussi, hein, est bien parti avec sa victoire 1-0.
Face à la Jamaïque. J'ai vu, c'était quand même laborieux.
Et ici, voilà, la Jamaïque. Mais...
les invités, comme le Mexique.
Ah oui, oui c'est vrai.
Et d'ailleurs, je sais pas si tu as entendu Cavani qui, lors d'une conférence de presse, a situé le Jamaïque comme une équipe africaine.
Ah, donc oui, ça, oui, oui.
Donc ça, faudra quand même qu'il retourne à l'école.
Par contre, décevant l'Argentine, et bravo au Paraguay.
Nico.
Oui, oui, parce que les Argentins qui menaient 2-0 dans la première demi-heure de jeu, qui étaient en plus très très séduisants, très intéressants, et qui se sont reprendre dans la suite du match, assez suffisants les Argentins, ouais. Alors que le potentiel est très pas d'absent, hein, je crois, du côté argentin. Quand on regarde l'équipe type, c'est les favoris, quoi. Hein, avec, bon, c'est clair que le Brésil est bien au complet également. Mais moi, je vois les Argentins comme le gros favori de cette compétition.
Donc, ils ont ouvert le score, effectivement, par Agüero et Messi. Et puis, dernièrement, et c'est celui qui a fait le but de l'égalisation dans les arrêts de jeu, c'est l'attaquant montpellierain Barrios.
Oui, Barrios. Ah,
si décrié ici en Ligue 1, il a permis au Paraguay de réaliser le match nul. Et le but de l'Uruguay, c'est Rodriguez. C'est Roya Rodriguez qui jouait au Paris Saint-Germain en 2005.
Ouais.
Rodriguez, le flop du PSG.
Et hier soir, on a assisté à la troisième victoire en Copa América. Du Venezuela, la surprise générale.
Exactement.
Qui a battu la Colombie.
1-0.
Ça, quand même.
C'est le groupe
félicitations
C.
Félicitations aux Vénézuéliens.
C'est le groupe C, c'est la surprise à la Colombie avec le retour de Falcao, enfin le retour de Falcao entre guillemets, puisqu'il avait été absent pour la Coupe du Monde dû à sa blessure. Et, ben voilà, la défaite d'entrée et ben maintenant du coup ça va être compliqué, même si dans cette poule Colombie, Venezuela, Brésil, Pérou, ils doivent jouer. Ben après ils vont battre théoriquement ils devraient battre le Pérou et ça risque de jouer face au Brésil. Brésil qui a eu énormément de difficultés hier soir, Nico.
Oui, oui, donc, mais parmi les grands favoris, bon, le Chili joue à domicile, donc bon, ça, c'est quand même un statut très important.
Oui.
Et le Chili est très bien parti, donc on se dit que le Chili va aller très loin et un gros statut de favori. Ensuite, derrière, on a bien sûr le Brésil qui veut se reprendre après ce mondial catastrophique. Et moi, je trouve que l'Argentine est bien bien placée. L'Uruguay, bon, l'Uruguay faut attendre parce que l'Uruguay est sans Suarez, c'est quand même une autre histoire.
Mais l'Argentine, on verra, voilà, on va voir. Si le problème, c'est toujours pareil, c'est défensivement, l'Argentine, c'est un peu juste. Et hier, le Brésil, pareil. Le Pérou a ouvert le score très rapidement. Neymar qui a fait un match extraordinaire a égalisé. Et c'est uniquement dans les arrêts de jeu où Douglas, sur une passe décisive encore de Neymar, a permis au Brésil de l'emporter. Mais c'était vraiment limite. Hein.
Ça va être intéressant jusqu'au bout. Et en plus, ouais, tout le monde joue ça avec sérieux, hein, du côté de la Copa América. Je pense que le Chili, on pourrait même presque mettre une pièce sur le Chili.
Mais moi, c'est ce que je disais. Pour moi, c'est l'équipe qui, on va dire, dans les 3-4, qui m'a fait la meilleure impression sur ces premiers matchs uniquement. Mais on a encore le temps. Ça se finit le 4 juillet. Donc, on a le temps de les voir. Et puis, là, on se régale. En tout cas, on peut le voir grâce à Bein Sport, hein, souvent décrit. Mais au moins, cette compétition, là, elle est bien intéressante. Allez, on va finir cette émission par un petit débat sur une nouvelle compétition créée qui s'appelle les Jeux Européens.
Mesdames, Messieurs, chers collègues, la séance est ouverte.
Formidable ! Formidable !
Il n'y a pas tout ça quand même.
Festival. En plus, j'ai appris que Stromae était souffrant, ce pauvre homme. D'après mes infos.
Ah bon,
bon, ça n'a rien à voir, bien que c'est aussi intéressant que les Jeux européens. Non, pas de cliché. Bon, les Jeux européens, c'est vrai que, bon, en 2012, apparemment, le comité européen des Jeux...
Le comité olympique européen.
Le comité olympique européen, organisme assez méconnu s'est dit bon, vu qu'on a rien à faire et qu'on ne fait jamais rien en fait, et qu'on existe, pourquoi on ferait pas un truc?
Il y a pas de comité olympique européen, on peut dire que ça ouais. C'est les différents comités nationaux européens qui décident, mais ouais, en fait il faut savoir que l'Europe est le seul continent où ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a les jeux asiatiques, il y a les jeux panaméricains, mais en Europe ça n'existait pas, les jeux européens.
Bon, bref, il se dit tiens, on va se faire notre propre compétition, manière nous aussi dépenser des sous.
Exactement, on va rajouter une compétition, et donc ça a été décidé en 2012.
Et c'est vrai que vu qu'il y avait tout un tas de pays bien connus qui auraient pu organiser, ben, ils ont fait appel à Sepp Blatter, et il a choisi l'Azerbaïdjan, c'est ça?
Exactement, c'est en Azerbaïdjan, à Bakou plus précisément, mais par contre on sait déjà que les prochains jeux européens auront lieu aux Pays-Bas en 2019.
Qui va peut-être apparemment retirer
sa candidature si ça ne marche pas. Exactement. Donc, alors, voilà.
Et d'ailleurs, quand même, la principale information des Jeux européens, c'est qu'on sait maintenant que Bakou est en Azerbaïdjan.
Pratiquement. Nico, je sais que toi, ça t'inspirait pas beaucoup.
Tu commences.
Parce que tu trouves ça ridicule.
Je suis perplexe. Comment vous dire? C'est assez hallucinant, ce truc. C'est une création de toutes pièces, quoi. C'est de toutes pièces. Et quand on voit où c'est lancé, ça veut tout dire, quoi. Quel symbole que de lancer ça à Bakou, Azerbaïdjan, pays dictatorial, régime de fer, qui a empêché la venue d'Amnesty International, là, récemment, hein, qui emprisonne les opposants. Et nous, l'Europe, hein,
les comités
européens, la première, là-bas. Ils ont dépensé des milliards, hein, ils ont dépensé des milliards dans les stades. La cérémonie d'ouverture est digne de celle de Londres en 2012. C'est hallucinant ce qui se passe. Et personne ne retransmet ça, mis à part l'équipe Mbappé en France. Et c'est la même chose dans tous les autres pays. Hein. Les autres pays, l'Allemagne, l'Angleterre, c'est diffusé sur une quelconque chaîne sans aucun intérêt.
Bah, ils savent pas quoi faire, l'équipe 21. Ils passent 12 heures par jour à mettre du poney et tout. Enfin, bon.
Alors, on est quand même dans le vide le plus total. Là, on brasse du vent. Et je me demande quels sont les sponsors de cette compétition. Enfin, d'ailleurs, on va se mettre à rechercher ça.
Bah, j'ai regardé sur la page des Jeux européens. Et bon, il y a des trucs comme McDonald's et tout. Il y a des gros trucs. Là aussi, ils ont lâché de l'argent.
Avec le CEO obligé de...
Mais c'est ça.
Bah, alors, Nico, qu'est-ce qu'il y a comme... Parce que moi, honnêtement, j'ai jamais suivi. Enfin, je suis pas du tout. Je savais même pas.
Ça vient de commencer.
Ouais, à peu près tous les
qu'est-ce
sports.
Qu'il y a comme, pas tous, comme, non. Qu'est-ce qui pourrait donner envie
alors,
de regarder. Qu'est-ce qu'il y a comme
de découvrir l'Azerbaïdjan, Vincent.
D'accord. Bon.
Non, il y a le judo. Alors, le judo, c'est un cas un peu particulier parce que les championnats d'Europe, du coup, à Glasgow, ont été annulés. Et du coup, ce qui va faire office de championnat d'Europe, c'est la compétition de judo aux Jeux européens.
Ce qui est intelligent comme démarche, finalement.
Oui, hein, il y a des sports où c'est quand même intéressant parce qu'il y a ils ont mis des places en jeu au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques.
Pour les JO.
Non, donc ça intéresse quand même des équipes qui viennent, du coup, avec des joueurs qui savent jouer dans leur sport, quoi. Parce que, bon, il y en a.
Qu'est-ce qu'il y a comme sport populaire?
Il y a le cyclisme.
Non, mais c'est quoi? C'est les équipes 4e série qui vont jouer?
Et bien, figure-toi que quand t'es à ce moment-là, je vous fais la petite parenthèse de 30 secondes, mais par exemple, pour la course de cyclisme sur route, l'équipe de France a dû envoyer 6 mecs. Je vous cache pas qu'on est à 2 semaines du départ du Tour de France, que tous les mecs, ils sont à fond la caisse comme Froome, Contador, ils sont en train de peaufiner leur préparation. Vauclair et compagnie, je vous raconte pas, tu leur dis, est-ce que tu veux venir à Bakou, pas 5 jours, faire une course de merde? Je vous raconte pas ce qu'ils vont répondre. Donc on a envoyé 6 mecs qui ne visent rien du tout au mois de juillet, et dont Alaphilippe, qui a fait une super campagne classique quand même, mais qui est complètement ratatiné. Il sort du Dauphiné, on l'envoie là-bas, la course c'est dimanche, c'est le jour de la fête de la musique. Et après on a envoyé 2 petits jeunes, on a envoyé mec de la FDJ, enfin tous les gars qui n'ont pas trop d'enjeux au mois de juillet, c'est-à-dire très peu de coureurs.
Alors il y a quelques sports olympiques, il y a 16 sports olympiques sur les 20, il y a 20 sports. Et il y a 16 sports olympiques. Donc, il y a le tennis de table, le badminton, boxe,
natation.
Natation, escrime, tir, VTT. Les gros sports, pas de handball.
Mini-golf, tout ça.
Pas de foot. Il y a un basket, mais c'est du 3-3. Donc, c'est pas. Il y a du volley.
Le foot, c'est demi-terrain ou pas?
Il y a du volley. Philippe.
Oui, via effectivement que les petits sports qui peuvent peut-être retrouver quelque chose là-dedans, parce que moi je me rappelle, si on raconte un petit peu l'histoire du sport, c'est qu'un Tour de l'Europe cycliste avait déjà été tenté d'être créé dans les années 50-60, et effectivement c'était à l'époque où où l'Europe se créait, donc effectivement c'était tout nouveau et ça avait été un échec cuisant. Donc effectivement pour les grands sports, je me rappelle également qu'il y avait un championnat d'Europe des rallyes, un sport automobile qui avait été créé, et puis là aussi ça avait été un flop. Donc voilà, c'est peut-être pour les petits sports, mais sinon moi ça me paraît pas quelque chose de très très intéressant.
Nico.
Pour bien expliquer à Vincent, c'est en fait chaque continent a ses jeux.
C'est ça.
L'Europe était le seul continent qui n'avait pas ses jeux parce qu'il y avait les jeux panaméricains, les jeux asiatiques. Voilà, chaque continent avait ses propres jeux. Et l'Europe n'avait pas ces jeux-là. Mais bon, faut dire aussi qu'en Europe, on est très attaché aux championnats d'Europe. Et l'athlétisme et la natation gardent cette année encore les championnats d'Europe, alors, qui sont une source et une manne financière importante.
Ce qui est fabuleux, l'athlétisme, il y aura de l'athlétisme, mais en fait, c'est la troisième division des championnats d'Europe de ligue d'athlétisme. C'est-à-dire, c'est par équipe. C'est-à-dire qu'il y a la Super League, première division, deuxième division, troisième division, et c'est ça qu'il va y avoir aux Jeux européens. C'est fabuleux.
L'Albanie.
C'est un niveau très, ultra faible en athlétisme.
L'Albanie, le Luxembourg.
ce type de. Ouais. Après, je suis d'accord avec toi, mon Nico. C'est-à-dire que le truc, c'est que un panaméricaine, un asiatique, c'est une chose, mais la concentration de pays et de très haut niveau, en Europe, des sportifs de l'Union font que les championnats d'Europe sont de très haut niveau. Donc du coup, peut-être qu'on avait moins besoin de Jeux européens, puisqu'on a déjà cette compétition.
C'est pour ça qu'ils sont tellement en retard, et c'est pour ça que les championnats d'Europe sont très forts. Donc, dans certains sports, donc l'athlétisme et la natation, qui sont des sports très très importants dans les Jeux olympiques, c'est des sports forts, tout de même, c'est peut-être les deux sports forts des Jeux olympiques, ils sont totalement occultés dans ces Jeux européens, puisque les championnats d'Europe sont très très importants. Donc du coup, on n'aura pas du tout de, voilà, il y aura aucun athlète important, ce qui fausse tout, ce qui dénature complètement les intérêts.
Pour moi, le seul intérêt de ces jeux, c'est de permettre à des sportifs de niveau un petit peu plus faible de connaître quelque chose de fantastique comme les JO, avec une super cérémonie d'ouverture, de magnifiques stades. Le public, je sais pas s'ils en ont payé pour aller dans les stades, j'ai pas trouvé ça du monde. Mais ça permet, voilà, au volley, par exemple, c'est l'équipe A', donc c'est la deuxième équipe, puisque les A jouent la Ligue mondiale en ce moment, c'est l'équipe A' qui allait faire ces jeux européens. Donc voilà, ça permet de se faire un petit peu voir à la télé, de s'amuser avec les copains, et puis c'est tout, quoi.
On embrasse
à des milliards, quoi.
On se demande où va l'argent quand même.
Après, Nico, moi, est-ce que les petites disciplines entre guillemets n'ont pas intérêt à justement faire passer leur championnat d'Europe sur ce type d'événement? Alors le judo, c'est pas une petite discipline, mais tu vois, genre le tir, le VTT, les petits. Ben du coup, au lieu de faire des championnats d'Europe que personne ne voit, autant les mettre aux JO européens où t'auras peut-être un peu plus de chances d'être vu, quoi.
Oui, mais c'est à mon avis c'est la suite logique, mais attention parce que tu n'as pas les têtes d'affiche. Et certes, voilà.
Mais sur les petits sports, oui, sur les petits sports.
Oui, mais c'est pas ça qui te fera ramener des sponsors. Mais
ça,
les
championnats d'Europe de canoë, choses comme ça, on les voit tous les 4 ans, les mecs, on les verra un peu plus.
Après, on est très pessimiste, mais bon, il faut bien que tout démarre. Voilà. Bon, il fallait pas démarrer en Azerbaïdjan, mais on verra dans 20 ans si ce sera peut-être une grande compétition européenne.
On en reparlera dans 20 ans. Pareil, Nico.
N'ayez pas.
Allez, on va terminer cette émission par nos habitudes. Extra time, les coups de boule, les coups de cœur, ce qui nous a plu, des plus ce week-end. Allez, coup de cœur, coup de boule, extra time, qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a déplu, qu'est-ce qui nous a énervé ce week-end dans le monde du sport. On démarre par Vincent, allez.
Alors moi, un coup de cœur pour le basket, donc avec les filles de l'équipe de France qui font le championnat d'Europe, et troisième victoire hier contre les Roumaines, donc bon début de ce championnat d'Europe en Roumanie et en Hongrie. Bon, là je vous raconte pas non plus, c'est pas l'extase au niveau du public, mais quand même... on souhaite une bonne chance à ces équipes de France. Et en parlant de basket, où on a vu un peu plus d'ambiance, c'est hier à Strasbourg pour la seconde manche de la finale du championnat de France entre la SIG et le CSP Limoges. Et un partout, voilà. C'était les Limougeaux sont bien partis puisqu'ils ont gagné à l'extérieur déjà. Et la troisième manche se jouera jeudi soir.
Alors, on clôture avec le basket, Nico. On parle vite fait des finales NBA où il y a un petit avantage.
Ouais, c'est mon coup de cœur, mon coup de cœur pour cette émission. Avantage pour Golden State face aux Cleveland Cavaliers. Alors, souvenez-vous, quand on avait parlé de NBA, on voulait les classer parmi les deux grands favoris de ces playoffs. Ouais. Et ils se retrouvent en finale, 3-2 pour Golden State. Donc, ça se joue en 4 manches gagnantes. Donc, on peut dire que l'équipe des Warriors est pour l'instant favorite. Mais en face, il y a Il y a LeBron James, hein, qui est sur des stats historiques. Il dépasse les Jordan, les Magic Johnson. Il est sur un niveau de jeu exceptionnel à 40 points de moyenne. Rendez-vous compte.
Ouais, c'est fabuleux.
C'est assez ahurissant ce qui se passe en NBA actuellement. Même si les finales sont pas d'un niveau exceptionnel comme ces dernières années, ça reste quand même, pas mal intéressant au niveau du suspense.
Mais je pense que ça suffira pas.
La prochaine match, Nico, c'est quand?
Du côté de Cleveland, c'est demain soir.
Exactement. Allez, Philippe.
Ah ben moi, bien évidemment, ça a été les 24 heures du Mans, hein, une très très belle édition de ces 24 heures du Mans et le fabuleux duel Porsche-Audi. Et c'est Porsche qui arrive à revenir gagnant au Mans, effectivement, donc Porsche qui gagne ces 24 heures. Audi, effectivement, qui finit troisième après avoir bien bien lutté avec Porsche pendant toute la nuit. Ils ont eu quelques petits problèmes de fixation du capot dans la matinée qui leur a fait faire perdre un petit peu de temps. Les Toyota étaient loin derrière, effectivement. Ils ont terminé, mais loin derrière. Et puis, donc, une très, très belle édition des 24 heures du Mans. À signaler également un petit historique. Vous parliez de Coupe d'Europe tout à l'heure. Eh bien, il y avait un championnat d'Europe des voitures de tourisme en 1975. Et la voiture qui avait gagné, c'était une Alpine, ce championnat d'Europe. Et on se demandait si l'Alpine Renault pouvait gagner les 24 heures du Mans en 75. Et elle avait fait qu'une heure de course et puis elle était tombe en panne d'essence. Vous voyez la qualité de ce championnat d'Europe à l'époque. C'était pour comparer à ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Quand même, un peu plus sérieusement, ces 24 heures, quand même, ça a été une très très bonne performance de l'Alpine qui était troisième de sa catégorie à 23 heures, qui est malheureusement est sortie de la route, et Alpine qui a présenté au cours de ces 24 heures du Mans une nouvelle voiture de tourisme qui sera bientôt vendue au public. Donc voilà peut-être le grand retour d'Alpine Renault donc aux 24 heures du Mans. À noter que les nouvelles Nissan à moteur avant ont par contre fait une piètre performance, puisque je crois que elles n'ont pas terminé, ou l'une a terminé tout à fait dernière, et non classée. Donc, Nissan très très, mauvais dans ces 24 heures du Mans, alors qu'ils avaient fait beaucoup de publicité. À signaler l'an prochain, eh ben, aux 24 heures du Mans, bien sûr, un nouveau duel, ou même, encore plus de passion, puisqu'il y aura bien sûr toujours Porsche, toujours Audi. Il y aura Toyota qui va revenir, et puis Ford qui en GT reviendra, Ford pour fêter sa première victoire aux 24 heures du Mans en 1966, donc ils vont revenir au Mans. Également 50 ans après, un événement sur le stand numéro 56, vous savez, le stand numéro 56, c'est un petit peu tout, les voitures un petit peu exceptionnelles, et là, ça sera un personnage assez exceptionnel qui sera là, puisque c'est un handicapé, il n'a plus aucun membre, et il prendra le départ des 24 heures du Mans l'an prochain avec des appareillages pour pouvoir piloter sa voiture. On verra que ça va donner l'an prochain, en tout cas des 24 heures qui s'annoncent passionnantes l'année prochaine.
Allez, ça roule. Mika,
je compte sur toi pour m'aider, mais en moto GP2, je crois qu'il y a un jeune français,
oui, Zarco.
Hein, Zarco, je sais pas si je t'ai piqué ton extra time, mais
non,
mais qui s'en sort très bien en GP2, qui a gagné le Grand Prix de Catalogne, je crois, ce week-end.
Exactement.
Et
sur la FEM.
Peut-être bientôt
moto GP,
un grand en moto GP français, quoi, parce que ça manque un petit peu depuis quelques temps.
Exactement.
Donc voilà, il est pas tout jeune, puisqu'il est né en 90. Voilà, il a 25 ans, mais il a un avenir encore devant lui.
Exactement, il fait une très belle course. S'il continue comme ça, il va devenir favori pour être champion du monde de Moto 2. Hein.
C'est faisable.
Ouais, exactement. Nico ?
Non, j'ai pas d'extra time très tranché. Je mets tes coups de cœur.
Moins intranché.
À tous ceux qui ont fait du sport.
Chris Froome
hier. Non, Chris Froome, je suis pas fan de Chris Froome. Je vais mettre mon extra time sur la route du Sud qui commence dans 3 jours avec un plateau incroyable. Les favoris du Tour de France ont choisi cette année la route du Sud. Il y aura Nairo Quintana. C'est sa seule épreuve en ce mois de juin, qui est mon favori pour le Tour de France, Nairo Quintana. Alberto Contador sera là. Il y a Thomas Vaucler. Il y a Esredal, l'ancien vainqueur du Giro. Il y a Basso. Bref, il y a tout le monde. Si vous voulez d'ailleurs suivre la présentation de la route du Sud, restez dans Radio Vélo avec Géniez, avec Loubet, avec Pierre Coben, président organisateur. Et l'autre coup de cœur pour la route du Sud, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la route du Sud, ils auront la télé, vu qu'Eurosport viendra les 4 jours.
Ah, t'es.
Ah.
Gros événement. Eh bien, on va finir avec un peu de tennis, avec la victoire de Mahut à Hertogenbosch. Alors, c'est évidemment compliqué.
Hertogenbosch.
Et je dis ça pourquoi ? Parce que du 17 au 19 juillet, l'équipe de France de Coupe Davis affrontera la Grande-Bretagne en quart de finale. Et donc, ça risque d'être sur l'herbe, sachant qu'on n'a pas des foudres de guerre. Voilà, exactement. Mais de là à penser que Mahut sera sélectionné, il y a un grand pas. Voilà, messieurs.
Ne bougez pas, l'équipe de Radio Vélo arrive dans quelques instants. L'équipe du Hors du Sport revient la semaine prochaine, et également podcast dès la fin de soirée. Ciao, à tout de suite.
Salut à tous.
Ciao, les amis.
c'est clair, j'ai rendu à mes amplis pour plaire aux cailles, éviter les ennuis. J'ai passé l'âge, laissé des ardoises. Il faut que je me pose quand tout le monde se lâche. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Le soleil plombe et les girls sont faciles. Dans la pénombre, préférez les dociles. Je veux toujours moins en faire. C'est clair, c'est clair. Allonge du cash pour se manquer. Autant que je sache, c'est une bonne.